Vous avez l'heure, Nadia ?
Laquelle ? L'heure d'été, l'heure d'hiver, quel faisceau horaire ? UTC plus 1, plus 2 ?
Vous avez vraiment l'art de tout compliquer. Mais vous n'avez pas tout tort, parce qu'on change d'heure ce week-end. Une heure de sommeil gagnée, mais une organisation perturbée.
À quoi ça sert au fond ? On en parlera dans Place Publique. On revient également sur les initiatives pour la préférence indigène.
Sur le marché de l'emploi à compétences égales, il faut privilégier les Neuchâtelois ou les Jurassiens. Aux frontaliers, l'UDC des deux cantons travaille sur une initiative. En ce sens, on essaiera d'y voir plus clair.
On reviendra aussi sur un concert qui fait couler beaucoup d'encre et qui met en lumière la commune d'Unterwasser, une publicité dont le fils du tourisme se serait bien passé.
5000 néo-nazis se sont réunis samedi 15 octobre. Aujourd'hui, le Blick annonce un prochain rassemblement le 5 novembre aux alentours de Lausanne. La Suisse est-elle une bonne terre d'accueil pour les néo-nazis ? C'est le premier thème de cette émission.
Place publique.
Bonsoir Cédric.
Bonsoir Nadia.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Place Publique.
Et on démarre cette émission avec le concert d'Unterwasser qui n'en finit pas de faire parler de lui. Il y a deux semaines, donc, 5000 personnes néo-nazies se sont réunies dans cette commune saint-galloise.
Les téléphones portables étaient interdits durant le concert, mais certains n'ont pas respecté cette interdiction. Et des images ont été retrouvées par le Sonntagsblick. On y entend le groupe chanter des paroles du genre « Noir est la nuit » pendant laquelle nous vous attraperons. « Blancs sont les hommes qui gagnent pour l'Allemagne. Rouge est le sang sur l'asphalte. »
Et nouveau rebondissement, aujourd'hui le Blick nous apprend qu'un prochain rassemblement est prévu le 5 novembre aux alentours de Lausanne. Pour parler de cette affaire, nous accueillons Martine Brunschwig-Graf, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes présidente de la Commission fédérale contre le racisme. On a un peu l'impression que la Suisse découvre ces rassemblements en ce moment, alors que ce n'est pas vraiment un phénomène complètement nouveau. Comment vous expliquez l'emballement médiatique qui est quand même relativement récent ?
À vous de me demander d'expliquer le comportement des médias.
Comment vous l'analysez, disons ?
Ben, écoutez, je pense que ce qui a causé fait couler beaucoup d'encre, c'est le fait qu'il y ait pu avoir 5000 personnes là où on en attendait 600 et un autre organisateur. Donc, c'est l'effet de surprise de ce qui s'est produit en Unterwasser. Aujourd'hui, le thème sur les néo-nazis, l'extrême droite est un thème qui est relativement présent dans les discussions dans les pays qui nous entourent, et particulièrement en Allemagne aussi. Donc, c'est pas très étonnant que si ça se produit en Suisse, on en parle, et heureusement qu'on en parle, ne serait-ce que pour dénoncer l'idéologie d'extrême droite et néo-nazie.
Il y a une recrudescence, on la constate réellement, c'est pas juste un phénomène d'attention médiatique.
C'est pas tout à fait ce que j'ai dit, je pense qu'aujourd'hui, on a peut-être plus de visibilité, le fait que les nouveaux médias, les médias électroniques favorisent aussi le recrutement des spectateurs, fait que ça apparaît aussi. Vous avez parlé d'Unterwasser, on sait pas encore ce qui va se passer avec Lausanne. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que c'est un défi pour les autorités parce qu'elles ont aussi des instruments pour refuser certaines manifestations si elles dérangent l'ordre public ou si manifestement il y a des appels à la haine. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est maintenant être conscient des instruments qu'on a pour lutter contre ce type d'idéologie et ne pas être une terre d'accueil pour ceux qui voudraient s'y installer.
Alors parlons-en de ces instruments, hein, parce que c'est vrai que les réactions politiques ont été vives. Le Conseil fédéral d'ailleurs s'est exprimé via Guy Parmelin, qui estime que ce type d'événement n'a rien à faire en Suisse. D'un point de vue légal, est-ce que la Suisse est véritablement un pays armé pour lutter contre ces rassemblements ?
Je pense que la Suisse a différents instruments légaux. Le premier d'entre eux ne touche d'ailleurs pas la loi contre le racisme, mais touche les autorisations qu'on peut donner en termes d'ordre et de sécurité publique. Et on peut considérer que l'ordre public peut être dérangé lorsque vous avez des gens qui tiennent des discours qui manifestement contiennent des appels à la haine, par exemple. Et donc, il appartient à l'autorité locale, communale en général, de prendre les décisions nécessaires lorsque cela s'impose.
Pas le droit aujourd'hui d'empêcher un groupe néo-nazi d'entrer en Suisse, par exemple.
On peut empêcher un groupe néo-nazi si on a des soupçons avérés d'un certain nombre de problèmes. On peut refuser une autorisation et donc, de ce fait-là, ne pas accepter à certains d'entrer s'ils sont manifestement et individuellement identifiés comme tels. Il y a différentes mesures qui peuvent être prises. Et puis, il y a les mesures pendant, c'est-à-dire aussi de contrôler ce qui est dit et le cas échéant de dénoncer et de condamner parce que parfois, la condamnation est aussi la dissuasion dissuasion pour ceux qui voudraient venir et qui pourraient y réfléchir à deux fois pour le futur.
La surveillance est une question intéressante parce que la police saint-galloise était sur place, elle n'a constaté aucune infraction, mais quand elle dit qu'elle était sur place, elle n'est pas entrée dans la salle parce que c'était
un
événement...
On ne peut pas constater d'infraction si on n'est pas dans la salle à entendre ce qui s'est dit
et l'argument était de dire c'est un événement privé et non public, 5000 personnes, on peut argumenter que c'est privé ?
Non, mais je crois qu'on est tous au clair là-dessus. Je pense qu'il ne s'agit pas de faire le procès de la police ni de quiconque, ce n'est pas mon rôle. Je peux simplement dire qu'un événement de 5000 personnes et un concert qui est annoncé et qu'on recrute sur Internet n'est pas un événement privé, est un événement public. Et je pense que tout le monde est au clair là-dessus. On aura certainement les réponses du tribunal, puisque la Fondation contre le racisme, qui n'est pas à confondre avec la commission, a déposé plainte pénale. Et que donc, si les groupes sont poursuivis, on pourra avoir aussi les suites. Et les suites, dans ce cas-là, pourraient conduire à constater que l'événement était public et qu'il y a peut-être eu des dérapages. Ça, on ne le sait pas. Il appartiendra au procureur d'en juger. Mais en tout cas, la plainte a été déposée.
La limite est difficile à tirer parce qu'on a l'impression que la Suisse a une législation un peu moins contraignante que nos voisins français, par exemple. Si on pense à l'humoriste Dieudonné, il était interdit de spectacle en France. Il a été beaucoup moins inquiété en Suisse. Est-ce que finalement, quelle que soit l'idéologie, même si elle est nauséabonde, c'est pas une bonne nouvelle pour la liberté d'expression que la Suisse soit un peu plus permissive?
Mais je crois pas que c'est une question de permissivité. Chaque pays a une législation particulière. Les Allemands, on sait, compte tenu de leur histoire, elles ont probablement la plus sévère, ce qui n'empêche pas d'ailleurs, comme vous savez, des groupes néo-nazis d'exister en Allemagne et de sévir ailleurs aussi. La Suisse a une législation qui n'a pas qui ne pratique pas la liste des interdits, que ce soit les symboles et autres, mais où il peut y avoir des condamnations. Et je pense que l'exemple de Dieudonné a montré d'ailleurs qu'il avait expurgé de son spectacle certains éléments qui avaient été condamnés en France. Donc il y a bien une législation qui est dissuasive, même si la personnalité de Dieudonné en soi est déjà discutable.
Par rapport à l'information révélée par le Blick aujourd'hui, comme quoi un autre rassemblement est prévu en novembre aux alentours de Lausanne, vous, qu'est-ce que vous attendez des autorités en vue de ce prochain rassemblement ?
Mais déjà, les autorités, à ma connaissance, n'ont pas donné d'autorisation. Elles l'ont d'autant moins donné qu'apparemment le lieu n'est pas connu. Et donc, on attend des autorités, même indépendamment de la Commission contre le racisme, que lorsque des manifestations non autorisées se produisent, qu'elles soient endiguées et le cas échéant interdites ou empêchées. Je pense que c'est important de faire respecter, y compris les règlements de police, d'ailleurs.
On parle d'interdiction en amont. Est-ce qu'il n'y a pas un problème au niveau de la prévention, au niveau de l'éducation, parce que
mais on peut réécrire toute l'histoire. Je pense que des gens qui viennent d'Italie, des gens qui viennent de France, on peut pas non plus régler tous les problèmes de la planète. Malheureusement, dans notre pays, à l'heure qu'on vit, on a des problèmes, y compris néo-nazis, il peut y en avoir. Et donc, vous avez raison sur un point. Je pense que l'éducation et la prévention sont des éléments importants. Ils ne guérissent pas seulement de tout. Les dérapages existent. C'est pour ça qu'il faut savoir, un, les empêcher quand c'est possible, les punir lorsqu'ils se produisent.
Lors de cette réunion, les paroles des chansons ont été vivement critiquées, jugées racistes. Nadia s'est demandé si les chansons qu'on écoute tous les jours n'ont pas aussi des connotations racistes.
Oui, j'en ai fait une petite sélection. Alors, ce sera à vous de me dire ce que vous en pensez. On va commencer doucement. On commence avec Rihanna et sa chanson « Needed Me ». Elle est extraite de son dernier album « Anti ». Elle est sortie cette année. À un moment donné, elle dit dans la chanson « Mes bébés, ne t'énerve pas, tu n'étais qu'un autre nègre sur ma liste ». Est-ce que pour vous, lorsqu'une personne de couleur dit ces choses-là, elles ont le droit, tandis que quand c'est la bouche d'un blanc, c'est raciste?
Non, je crois que tout est une histoire de contexte. Alors moi, je ne suis pas l'autorité ni le tribunal qui va vous dire pour chaque parole, et si vous essayez de me faire cet exercice, je vais m'y refuser. Parce que chaque chose doit être mise dans un contexte. Non, ce n'est pas plus autorisé, sauf si c'était un mot d'humour dans un truc qui n'était peut-être pas très drôle. Mais j'imagine fort bien que en soi, le mot nègre n'est pas un mot qui est nécessairement privilégié dans nos contrées s'il est là pour mépriser. Là, ce qu'elle voulait en dire, je n'en sais rien. Je connaissais ni les paroles de cette chanson, ni le contexte dans lequel elle l'a écrit, ni le reste du texte non plus, d'ailleurs.
Au-delà de l'exercice qu'on vous fera donc pas faire, ça pose quand même une question intéressante, la banalisation. C'est vrai qu'il y a des mots dans la culture populaire qui sont banalisés, et même parfois dans certains hymnes nationaux. Est-ce que là aussi, il n'y a pas un problème de fond?
vous avez un exemple pour les hymnes nationaux?
Ouais, je sais pas, du côté, par exemple, on a souvent cette notion de rejeter l'étranger. Si on prend la Marseillaise, par exemple, elle est là, cette notion. Est-ce que là, il n'y a pas un problème de fond?
Je pense que... Je ne sais pas comment on interprète la Marseillaise, qui est dans un contexte tout à fait particulier. Je pense que ce n'est pas les hymnes nationaux qui posent les problèmes, très franchement. Ce qui pose des problèmes, c'est la méconnaissance de ces idéologies, le fait qu'on banalise ces idéologies en tant que telles. Ce n'est pas le problème d'une chanson ou d'une autre chanson en tant que telle. C'est vraiment que petit à petit, avec les années, on ne doit pas négliger, parce que la mémoire de ceux qui ont subi notamment l'idéologie d'extrême droite et l'idéologie nazie, elle n'est plus aussi présente, puisque les gens, malheureusement, meurent petit à petit de tous ceux qui ont vécu le pire. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on doit pouvoir expliquer ces choses, dire pourquoi, quels sont les dangers, ce que signifient certains textes, et aussi les décortiquer. C'est le devoir de ceux qui en parlent et de ceux qui connaissent ce genre de sujet, c'est clair.
Une démarche éducative. Donc merci beaucoup Martine Brunschwinger d'avoir été notre invitée. Très bonne soirée.
À vous aussi.
Et à 18h30, nous allons faire un point sur les informations.
Avec Yann Azler.
Bonsoir. Un homme a trouvé la mort ce matin à Neuchâtel. Il a chuté d'un balcon de l'un des immeubles du quartier des Acacias sur les hauts de la ville. L'homme d'une cinquantaine d'années, domicilié dans le canton de Genève, avait disparu depuis plusieurs jours. C'est, semble-t-il, une connaissance des occupants de l'appartement d'où il est tombé. À ce stade, le procureur précise qu'aucun élément ne peut laisser penser à l'intervention d'un tiers. Les directeurs d'école seront tous logés à la même enseigne. Le conseil exécutif bernois a décidé d'uniformiser leurs salaires. Actuellement, les directeurs d'école enfantine, primaire et spécialisée font partie de la classe salariale qui commence à 7160 francs par mois. Dès août prochain, ils recevront le même salaire que leurs homologues du secondaire 1 à 7900 francs. Le mois du film documentaire revient dans le Jura. La 9e édition du Festival Transfrontalier commence le 3 novembre et s'étend jusqu'au 30 novembre. Au menu, 40 projections, dont 21 dans les 3 districts jurassiens et 19 sur le territoire de Belfort. La thématique de cette QV 2016 est la liberté sous toutes ses formes. En cas d'afflux massif de réfugiés, le secrétariat d'État aux migrations prévoit de loger jusqu'à 1200 personnes dans les halles de chars de la place d'armes de Thun. Il ouvrira en outre un centre fédéral pour les requérants d'asile dans le camp militaire de Boltigen. La Confédération ne devrait pas mettre davantage la main en porte-monnaie pour soutenir les efforts des cantons en matière de protection contre les crues. La Commission de l'énergie du Conseil des États rejette une initiative du canton de Berne. Celle-ci exigeait que le taux de subventionnement minimum passe de 35 à 45% des coûts. Le Parlement de la région belge de Wallonie a donné son feu vert à la signature par la Belgique du traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. La fronde anti-CETA était partie de Wallonie il y a 2 semaines. En karaté, Fanny Clavier a été prématurément éliminée au championnat du monde à Linz. La Valaisanne en effet échouée dès les qualifications dans la catégorie des plus de 68 kilos. Elle a été battue par l'égyptienne Soïla Bouesmal par décision des juges. Pour ce qui est de la météo, demain, les nuages matinaux se dissiperont sur le plateau en principe durant l'après-midi. Au-dessus de 1000 mètres, le temps sera ensoleillé avec des températures allant de 3 à 15 degrés au maximum.
Place publique. Notre invité suivant est le président de l'UDC jurassienne, député et chef d'entreprise. Avec lui, on parlera du projet d'initiative sur la référence indigène. Bonsoir, Romain Cher.
Bonsoir.
Avant d'entrer dans le vif du sujet, une réaction peut-être par rapport à notre sujet précédent, le concert néo-nazi d'Unterwasser. Fallait-il, selon vous, interdire ce genre d'événement ?
Poser la question, c'est d'y répondre. Puis je pense que l'interlocutrice précédente a très bien répondu et je peux qu'appuyer son discours.
Il faut donc une armada législative un peu plus dure, selon vous ?
Ouais, pas nécessairement. Il suffit d'appliquer la loi et puis avoir un peu de bon sens. Et puis, je pense que tout ira bien.
Alors, venons-en à notre sujet, le sujet qui nous occupe. En fin de semaine passée, votre parti a annoncé vouloir lancer une initiative cantonale sur la préférence indigène, sur le thème « Les nôtres d'abord ». L'objectif est de donner la priorité aux jurassiens sur les emplois disponibles. Concrètement, est-ce que vous savez déjà ce que contiendra le texte ?
Non, justement, c'est pour ça qu'on a demandé à notre Assemblée de donner compétence au comité directeur pour évaluer la situation, pour savoir si on va, de toute façon, une initiative, on va la faire avec des termes non pas généraux, mais bien précis. Et justement, là, pour l'instant, on est en train de se tâter pour savoir à quel niveau nous allons composer notre texte, si c'est dans la Constitution ou plutôt dans la loi.
Et la section neuchâteloise du parti a fait de même avec un texte intitulé « Les nôtres avant les autres ». Des initiatives qui font écho à un texte accepté par le peuple tessinois qui vise à inscrire dans la Constitution qu'un Tessinois a la priorité sur le marché de l'emploi à qualification égale. Donc si je vous ai bien compris, votre initiative pourrait toucher la Constitution jurassienne.
Elle pourrait, effectivement, mais bon, juste pour rappel, nous avions le groupe UDC au niveau du Parlement jurassien déjà déposé une initiative parlementaire à ce sujet en 2014. Donc pour nous, c'est pas nouveau. Simplement, vu que, comme d'habitude, le Parlement refuse les propositions de l'UDC, alors on va demander au peuple son verdict.
Nous sommes dans une région horlogère, hein, y a beaucoup de sous-traitants, que ce soit du côté de Neuchâtel ou du Jura, un réel besoin de main-d'œuvre, aussi de main-d'œuvre étrangère. Est-ce que c'est bien le moment de leur donner des contraintes supplémentaires.
Aux entreprises, vous entendez ? Ben, ils n'ont pas de contraintes supplémentaires, c'est simplement de dire à équivalence ou qualité équivalente, on souhaite qu'on préfère les personnes de notre canton. Et je ne vois pas ce qu'il y a comme problème.
Alors, on va y revenir. Hein. Je vous propose avant ça d'écouter une interview, parce que le Conseil national s'est penché sur la question, propose ce qu'on appelle une préférence nationale light. En résumé, dans un premier temps, le Conseil fédéral devrait tout entreprendre pour utiliser un maximum le potentiel de la main-d'œuvre suisse. Puis, il peut donner aux entreprises, ordonner aux entreprises d'annoncer les emplois vacants aux ORP, aux offices régionaux de placement. Et puis, dans un troisième temps, et si certaines régions connaissent une situation particulièrement tendue, le Conseil fédéral peut prendre des mesures qui ont force d'obligation. Ça a été accepté par 98 voix contre 93. En quoi cette solution-là, elle ne vous convient pas ?
Elle ne convient pas parce qu'on trouve toujours des exceptions un peu à toutes les sauces. À mon avis, en donnant un peu la possibilité et puis qu'on donne clairement le feu vert aux personnes de notre canton ou bien de la région ou l'indigène. Et puis... Vous essayez de nous pousser à dire qu'on fait une sélection, mais c'est pas du tout le cas. On prend les gens qui sont à disposition et puis on demande aux entreprises, mais bon, encore déjà, discutons les entreprises, laissons la liberté encore du choix, mais en tous les cas, au niveau du canton, respectivement, des emplois publics, il me semble-t-il que ce serait tout de même un peu logique qu'on prenne d'abord les personnes qui vivent dans notre région, dans notre canton, plutôt que de prendre à l'extérieur.
C'est ce que propose le Conseil national à l'échelle suisse.
Oui, mais il y a aussi passablement d'exceptions. Et puis nous, l'UDC, on dit, ben, cessons cela. Et puis laissons aussi quelque part les gens choisir. Et puis maintenant, on est en train de mettre un peu de l'eau dans le vin, de dire on donne, mais on donne pas. Mais soyons clairs, on dit voilà, s'il y a la main d'œuvre à disposition en Suisse, on prend d'abord les gens en Suisse. Et puis après, on regarde éventuellement à l'extérieur.
Alors, plus tôt cet après-midi et sur le même sujet, nous avons appelé Carmelo Lagana, responsable de projet à Économie Suisse. Lui se dit satisfait du projet du Conseil national. Écoutez-le.
Pour nous, ce qui est important, c'est que la mise en œuvre tienne compte des besoins de l'économie, d'une part, et d'autre part, préserve nos engagements internationaux et en particulier les accords bilatéraux que nous avons ratifiés avec l'Union européenne. Et dans cette perspective, la solution proposée par le Conseil national nous convient très bien. Ce qui est déterminant, c'est que l'économie puisse engager les personnes qui recherchent. Il y a une volonté assez claire, largement exprimée et partagée pour qu'on regarde d'abord sur le marché du travail indigène, pour voir si ces personnes ne se trouvent pas sur ce marché du travail. Et puis ensuite, que l'engagement puisse se faire avec les bonnes personnes. Donc, il y a effectivement la pénurie de main-d'œuvre qui guette dans plusieurs secteurs d'activité, dans l'industrie des machines, mais aussi dans les secteurs de la santé. Et donc, il est vraiment important de pouvoir engager le personnel dans ces secteurs-là. Ce sont des secteurs très sensibles, très importants. Il s'agit également que les mesures soient le moins contraignantes possible, en ce sens qu'elles ne doivent pas créer un monstre bureaucratique qui entraverait l'activité des entreprises.
Romain Cher, quand on entend parler Carmelo Lagana des relations avec l'Union européenne, des engagements internationaux essentiels selon lui à la santé de l'économie, est-ce que vous souhaitez que votre texte, le texte que proposera l'UDC jurassienne, soit eurocompatible ?
Il sera non pas eurocompatible, mais il sera tout simplement compatible à la volonté du peuple suisse. Et puis on n'a pas besoin de demander l'avis de l'Europe pour savoir si on fait un bon chemin ou pas. Donc notre liberté, on est aussi grand ou assez grand pour juger si c'est bien pour notre pays ou pour nous ce que l'on fait. Et puis on n'a pas besoin de chaque fois se retourner vers ce gros machin qu'est l'Union européenne pour savoir s'ils sont d'accord ou pas.
Mais les entreprises souhaitent quand même de garder de bonnes relations relations avec l'Union européenne, elles sont essentielles.
Si vous voulez faire des affaires, j'entends, vous devez trouver un partenaire qui est d'accord de faire une affaire avec vous. Et jusqu'à présent, me semble-t-il que la Suisse se débrouille déjà pas si mal. En tous les cas, au niveau du taux de chômage et puis l'occupation également, puis notre économie, je pense que là, l'Union européenne aurait plutôt besoin de regarder ce qu'on fait et comment on le fait, plutôt que nous donner des leçons où ça l'embête plutôt qu'autre chose.
Donc, vous l'avez dit, quelque part, les relations avec l'Union européenne restent importantes. Est-ce qu'il faut vraiment lancer des textes qui risquent de mettre en danger cette relation? Parce qu'on a vu au Tessin, par exemple, ça a créé de grandes tensions avec l'Italie, avec les voisins italiens. Est-ce que vraiment, il n'y a pas un risque de provoquer ça avec les voisins du Jura et Neuchâtel?
Mais de quoi vous avez peur? Je ne comprends pas. L'Europe a besoin de nous, nous on a besoin d'eux, et puis on fait du business. Et puis voilà, je ne vois vraiment pas quel souci s'il faut chaque fois demander l'autorisation de l'Union européenne pour savoir si on peut se lever le matin ou pas. Je trouve ça totalement déplacé.
Mais le respect des accords, des engagements internationaux.
On les respecte. Je ne vois pas le problème si on dit on veut d'abord regarder pour nos gens, on veut donner du travail à nos personnes qui sont chez nous. Je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a de problématique là-dedans. D'ailleurs, maintenant, tous les pays qui nous entourent, également, si on parle des réfugiés et consorts, ils mettent aussi gentiment des barrières et puis ils freinent aussi gentiment l'afflux. Donc, chacun va regarder aussi pour que le bien et la qualité de vie dans son pays soient garantis. Alors, et puis ça, c'est la logique même.
Restons sur l'économie. Carmelo Lagana parle également de la lourdeur administrative que votre parti condamne également. Comment est-ce qu'on peut imaginer contraindre les entreprises à engager des gens de leur région en priorité sans ajouter de la paperasse ou des contrôles?
Mais c'est justement pour ça que nous, le canton du Jura, ou l'UDC Jura, se pose la question. Imposer à des entreprises quelque chose, comme vous l'avez souligné, je suis aussi entrepreneur, on n'aime pas ça. On n'aime pas avoir cette épée de Damoclès sur nos têtes, mais on peut aussi inciter les entreprises à engager du personnel de la région ou indigène.
Mais les inciter, c'est donc la préférence light. Il n'y a rien de contraignant dans une incitation. Faites-le, mais on ne va pas contrôler, pas vérifier.
Mais non, ça, sinon vous ne faites rien du tout. Hein, mais j'entends aussi... Les chefs d'entreprise ne sont pas, tout de même pas tous des personnes qui sont aveugles et sourds. Donc on peut aussi leur donner quelque part, pas favoriser, mais donner en tous les cas une aide pour dire, ben voilà, donner la préférence à ces personnes, donnons la chance aussi à ces personnes de pouvoir travailler. Et puis si ces personnes ne veulent pas, alors là c'est bien assez tôt pour corriger le tir. Mais là, nous on est plutôt dans le parapublic que dans le privé. Parce que, encore une fois, la liberté d'entreprise, elle est toujours numéro une, en tous les cas aussi à l'UDC Jura. Et là, on va pas se tirer une balle dans le pied non plus.
L'idée que une entreprise, quand elle a des postes vacants, doit systématiquement le signaler à l'Office régional de placement, c'est une idée qui vous séduit?
Ça ne devrait même pas être une idée, ça devrait être un réflexe automatique d'un entrepreneur. Alors si on doit le rappeler quelquefois de le faire, je trouve ça pas dérangeant.
Un autre point qu'on voulait aborder avec vous, Romain Cher, par rapport à cette préférence indigène et à la lourdeur administrative, c'est le fait que des contrôles, il y en aura besoin si une initiative comme celle-ci passe. Les contrôles, c'est quelque chose qui sera prévu dans votre texte. En même temps, on a l'impression que vous voulez pas contraindre, laisser les entreprises libres, mais en même temps que vous voulez pas un texte qui soit non plus trop mitigé, où il y a trop d'exceptions. Donc, entre les deux, comment vous allez faire pour rédiger quelque chose de tangible?
C'est pour ça qu'il nous faut du temps. Et puis ce temps va être pour l'année prochaine et en tous les cas dans les trois minutes qui suivent, parce que on a demandé justement à notre assemblée de nous donner la carte blanche pour pouvoir bien réfléchir et bien peser les intérêts, qu'on puisse proposer aussi une initiative que vous n'allez pas nous reprocher d'avoir manqué sa cible. Mais en tous les cas, on a besoin en tous les cas au niveau Parlement, respectivement, la parapublic, nous avons besoin d'un garde-fou quelque part, parce que lorsqu'on a vu ce qui s'est passé les années précédentes au niveau du canton du Jura, on pouvait véritablement se poser la question si on faisait systématiquement exprès d'engager des personnes hors canton, et voire même hors de la Suisse, pour occuper des postes dans le public.
Donc entre les contraintes et la liberté, la surveillance ou le laisser-faire, il y a là un problème complexe. Vous êtes sûr de parvenir à un texte où vous pouvez envisager de vous rendre compte que c'est trop compliqué, que c'est pas possible?
Il n'y a rien qui n'est impossible.
Donc vous êtes sûr d'arriver à un texte?
On est sûr d'arriver à un texte, effectivement.
Une échéance déjà qui a été posée?
Alors là, si je pouvais vous donner cela, j'irais jouer à la loterie, puis je gagnerais à tous les coups. Donc, en tous les cas, une fenêtre, c'est printemps de l'année prochaine, ou voire l'été de l'année prochaine.
Nadia a bien aussi envie de vous poser quelques questions. Mais si vous le voulez bien, on va changer de casquette.
Ouais, on enlève celle du président de parti et on met celle de l'entrepreneur. Voici l'interview. Je prendrai elle de la main-d'œuvre jurassienne, même si. Alors, je prendrai de la main-d'œuvre suisse, même si j'ai devant moi un frontalier un tout petit peu plus compétent qu'un postulant jurassien.
Ah, vous tirez par les cheveux, là. Moi, j'engage du personnel quand je l'ai devant moi, si je peux parler avec cette personne. Et puis, je dois avoir aussi une fibre avec cette personne. Si elle passe bien, je ne vois pas pour quelles raisons on devrait faire des exceptions. Mais là, c'est tiré par les cheveux ce que vous me posez comme question, là.
Alors, vous prendrez de la main-d'œuvre suisse, même si vous payerez 1500 francs de moins frontalier?
Oui. Et là, je peux vous dire que ça, c'est des arguments qui ne devraient pas peser dans la balance, parce que moi, je suis pour défendre une région. Mes gens, ou les gens qui travaillent dans une entreprise, qui vivent dans notre canton, ils vont dépenser également dans notre canton, ils utilisent les infrastructures du canton. Et là, oui, je préférerais cela, même si la valeur ajoutée, ou bien mon bénéfice, comme vous pouvez penser, elle sera un peu diminuée. Mais en tous les cas, la société dans laquelle je vis, ici au canton du Jura, si on prend cet exemple, elle va aussi profiter de cette situation, plutôt que de profiter à court terme, parce que j'engage une personne de l'autre côté.
Vous l'avez dit tout à l'heure, vous voulez avoir les gens devant vous, les apprécier. Mais du coup, si vous prendrez de la main-d'œuvre suisse, même si devant vous, vous avez un frontalier beaucoup plus courtois et beaucoup plus responsable qu'un postulant jurassien?
J'avais préféré la personne qui me sied le mieux. C'est une difficulté. Vous voulez me pousser à dire je vais plutôt engager un Suisse contre le frontalier. C'est pas du tout à ce niveau-là qu'on joue. Si à compétence égale, je prends le Suisse. Si un frontalier est nettement meilleur et dépasse de quatre têtes tout le monde, et bien je serais vraiment bête de ne pas prendre une personne qui dépasse tout le monde. C'est à ce niveau-là. Puis si c'est au niveau salarial, avec ce dommage qu'il n'y a pas notre camarade syndicaliste qui est là, vous avez aussi des conventions qui sont à respecter. Donc là, la manœuvre ou la marge de manœuvre est extrêmement petite. Et si elle est là, il y a encore aussi un comité de représentants patronales, syndicales et ouvriers pour surveiller si les salaires sont respectés dans les domaines dans lesquels on discute dans les entreprises. Donc, je ne vois pas pourquoi je devrais choisir plutôt un Suisse contre un frontalier. Là, ce combat que vous essayez de me faire n'est pas dans ma philosophie.
Je vais continuer de vous titiller ce soir. Si vous deviez engager quelqu'un pour vous poser des questions, vous choisiriez moi qui suis bernoise ou Cédric qui est jurassien?
Alors là, mon cœur balance parce que vous avez une belle voix. Je suis également, exactement, ben vous êtes jaloux aussi. Et puis, je suis jurassien, je suis aussi né ici dans le canton du Jura, puis je défends aussi le canton du Jura. Et je suis suisse alémanique, donc voyez, je suis partagé.
Il faudra peut-être plusieurs années pour faire un choix du coup.
Plusieurs années, effectivement.
Merci Romain Cher d'avoir été notre invité. Très bonne soirée.
Merci de même.
Place publique. Notre dernier sujet vous concerne tous. Dimanche à 3h du matin, il sera à nouveau 2h. C'est en effet ce week-end qu'on change d'heure.
Pourquoi? Qui décide de changer le temps comme ça? On va essayer d'expliquer scientifiquement ce qui se cache derrière le changement d'heure, les années bissextiles et les secondes intercalaires. Et pour ça, nous recevons Jacques Morel. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous êtes le chef du laboratoire photonique temps et fréquence à l'Institut fédéral de métrologie METAS et vous venez au secours de Nadia qui a un gros problème.
Oui, alors j'en ai besoin. Alors quand j'étais petite, changer d'heure, c'était l'événement. Deux fois par année, on disait qu'on allait passer une nuit bizarre, qu'ils étaient méchants de nous enlever une heure de sommeil en été et qu'ils étaient super gentils de nous en donner une de plus en hiver. Mais c'est ils, c'est qui? Alors dans ma tête d'enfant, j'imaginais de grands hommes tous habillés en noir avec de longs manteaux devant une horloge et qui, très impérieusement comme ça, s'amusaient une fois à arracher une heure et environ 6 mois plus tard à en rajouter une. J'ai grandi, et heureusement pour mon imaginaire, ces messieurs ont disparu, mais je continuais d'entendre « Ah, on nous enlève une heure !» ou « Trop bien, on nous en rajoute une !» Et j'ai envie de préciser une chose, hein, on nous en rajoute une seule fois, et pas tous les jours, des 6 mois d'heure d'hiver, dont les journées, elles vont pas durer 25 heures. Alors évidemment, dans un monde comme le nôtre, on ne peut pas tous réagir de la même façon. Il y a ceux qui ne s'en rendent même pas compte. Quoi ? Ça a changé cette nuit ? Bah, heureusement que mon portable change automatiquement. Il y a les paniqués. C'est quand le changement d'heure déjà ? Ah, le week-end prochain ? Mais on avance ou on recule ? Il y a les opportunistes, hein. Désolé patron, mais j'ai oublié que c'était le changement d'heure et j'ai pas changé sur ma montre. Et puis il y a ceux qui ont toujours de bonnes astuces. Alors en hiver, on recule et en été, on avance. Alors faudra encore toujours qu'on m'explique le lien avec été et avance. Mais la raison officielle du changement d'heure, c'est l'économie d'utilisation de la lumière artificielle. D'accord, mais j'ai quand même une question. La vraie heure de la planète, c'est l'heure d'été ou c'est l'heure d'hiver?
Alors, la vraie heure de la planète n'a pas beaucoup de lien avec le choix de définir une heure d'été ou une heure d'hiver. Si on regarde un peu comment les échelles de temps ont été définies au cours de l'histoire, la première réalisation qu'on en a faite, c'est en considérant le temps dont a besoin la Terre pour tourner autour de son axe. La rotation complète sur son axe définissant une journée, et puis, acceptant le fait que dans une journée, il y a 86 400 secondes, eh bien, on pouvait, au travers de la mesure de ce temps de rotation, définir la durée de la seconde. Et c'est comme ça que, finalement, les échelles de temps ont été à l'origine rattachées, on va dire, à la nature elle-même. Maintenant, ça a posé au cours du temps des difficultés toujours plus importantes de par le fait que la vitesse de la rotation, de rotation de la Terre n'est malheureusement pas une constante. Il y a beaucoup d'effets perturbateurs qui font que ben voilà, cette vitesse varie. La conséquence était que ben voilà, la seconde n'était pas toujours la même. Et puis le progrès arrivant, les systèmes utilisés dans la vie courante étant de plus en plus sensibles à des échelles de temps très stables, on a été confronté au fait de devoir basculer vers une définition, une réalisation des échelles de temps qui n'était plus dépendante de la nature, mais qu'on réalise au travers d'horloges atomiques.
Et l'heure d'été, l'heure d'hiver, là-dedans, du coup, c'est arrivé quand et pourquoi ?
Alors, encore une fois, comme votre collègue le mentionnait précédemment, le fait de vouloir introduire une heure d'été ou une heure d'hiver est quelque chose qui n'a aucun lien quelconque avec un effet naturel. La seule chose que l'on voulait obtenir au travers de ce basculement à l'heure d'été, c'était d'avoir des soirées plus longues, de pouvoir économiser de l'énergie, comme vous le mentionnez au niveau de l'éclairage.
Et ça, ça fonctionne ? On n'a pas démontré qu'en fait l'économie était nulle ?
Vous avez absolument raison. Les résultats globaux de cette décision au niveau économie d'énergie sont totalement négligeables.
Et du coup, pourquoi on ne revient pas en arrière ?
Alors, c'est une grande discussion qui se fait ou qui devrait se faire au niveau politique. La raison pour laquelle actuellement, par exemple, en Suisse, nous tout seuls, nous ne décidons pas de basculer à nouveau à une situation sans heure, sans passage de l'heure d'été à l'heure d'hiver, est le fait de rester en harmonie avec les échelles de temps de nos pays voisins.
Donc c'est une question qui n'est plus que politique. Le temps qui passe, c'est forcément une notion abstraite, hein, et 2016 est une année qui le montre bien, vous parlez de ces corrections, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup. 2016, c'est d'abord une année bissextile, ce qui est le cas tous les 4 ans, sauf si l'année est divisible par 100, mais quand même, si elle est divisible par 400, et il y a encore plus abstrait, puisque le 31 décembre de cette année, la dernière minute durera 61 secondes au lieu de 60 secondes, ça s'appelle une seconde intercalaire. En gros, quand on fera le décompte de Nouvel An, on ne se dit pas bonne année à zéro, mais on devra attendre une seconde de plus, c'est ça ?
C'est cela même, oui.
À quoi ça sert une seconde, ces mini-corrections ? Elles servent à quoi au final ?
Alors, on peut revenir à ce qu'on discutait tout à fait précédemment. Donc maintenant, les échelles de temps sont réalisées avec des horloges atomiques. C'est une échelle de temps qui est extrêmement stable. Beaucoup plus stable que le temps fourni par la nature. Mais maintenant, la conséquence, c'est que cette échelle de temps va gentiment s'écarter de l'échelle de temps fournie par la nature. Alors, si on ne faisait aucune correction, ben, ce qui pourrait arriver, c'est que gentiment, notre temps donné par nos horloges deviendrait complètement différent de celui de la nature. Alors, si on raisonne en termes de milliers d'années, on pourrait arriver à des situations où, effectivement, le repas de midi se prendrait en milieu de journée. C'est un exemple très extrême. Mais c'est vraiment pour corriger ce fait qu'on a introduit l'idée de la seconde intercalaire. Et l'idée, c'est de se dire que chaque fois que l'écart entre l'échelle de temps donnée par la nature, par la Terre, et puis l'échelle de temps donnée par les horloges atomiques diverge de plus de 0,9 secondes, on fait une correction.
Comme ça, on garantit de rester en adéquation avec la nature.
Donc au final, en fait, il y a une véritable démarche scientifique, c'est pas au niveau politique où des gens décident d'ajouter une seconde, de retirer une seconde. Il y a vraiment des instruments scientifiques qui permettent de savoir exactement quelle heure il est ?
Absolument. Donc à nouveau, actuellement, les échelles de temps qui définissent le temps universel coordonné, celui qui est utilisé partout sur la planète, sont réalisées à l'aide d'horloges atomiques. Ce sont des systèmes qui viennent interroger les propriétés spécifiques de certains atomes. Et de cette interrogation résulte une seconde que l'on arrive à produire avec une exactitude qui est extrêmement importante. Pour donner des ordres de grandeur sur une telle horloge, il faut patienter plusieurs millions d'années,
30 ah oui, c'est long.
300 millions d'années, pour avoir un écart d'une seconde.
Toutes ces corrections, c'est vrai qu'on a une minute dure 60 secondes, une journée dure 24 heures, il y a un système qui est en place. Une dernière question, est-ce que des scientifiques ont déjà planché sur des alternatives pour mesurer le temps ?
Alors, plutôt que de parler de mesurer, là on va plutôt parler de réaliser. Alors, comme on le disait actuellement, la référence est d'utiliser des horloges interrogeant des atomes dans des fréquences que l'on appelle micro-ondes pour réaliser cette seconde avec les exactitudes que l'on a mentionnées précédemment. Et ce que l'on essaye de faire, c'est d'aller à des exactitudes encore plus importantes en utilisant d'autres méthodes d'interrogation, d'autres types d'atomes. Et on parle pour le futur plus lointain d'horloges optiques avec des performances qui seront peut-être 100 fois meilleures que ce que l'on peut faire actuellement.
Et qui ne serviront pas forcément à monsieur et madame tout le monde.
Alors, la réponse est oui et non. J'entends pour la vie de tous les jours, ça ne va pas changer grand-chose pour monsieur tout le monde. Par contre, si vous faites référence au système GPS que vous utilisez ou bien au fait de naviguer sur Internet, utiliser des réseaux à ultra haut débit qui demandent d'être très bien synchronisés, alors pour faire fonctionner ce genre de choses, on a besoin de références de temps, de références temporelles toujours meilleures. Et c'est dans ce but-là que se font ces développements.
Merci beaucoup pour ces explications, Jacques Morel. On retiendra notamment que dimanche, à 3h du matin, il sera à nouveau aux 2h. Vous n'oublierez pas de régler votre montre. Hein.
Promis juré.
Et on vous souhaite un excellent week-end.
À vous aussi, je vous remercie. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Et justement, en parlant de week-end et d'heure, c'est l'heure du week-end. Place publique arrive à son terme, mais continuez sur notre site internet où vous pouvez réécouter l'émission.
Jusqu'à la semaine prochaine, nous reviendrons avec de nouvelles thématiques. Rendez-vous donc vendredi à 18h20.
Heure d'été ou heure d'hiver ?
Bon, ça suffit maintenant.
Ouais, d'accord. Bon week-end.
Bye bye.
Place publique.